Bienvenue au podcast d'El Shaddai. Vous allez écouter une parole qui va vous édifier et qui vous permettra d'avancer afin d'être bien établi dans votre vie chrétienne. Excellente écoute.
C'est le Saint-Esprit qui était au début, qui les accompagne et qui va les accompagner encore durant toute leur vie. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui fait des chrétiens l'Église, le corps de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, on ne peut pas le dissocier. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Même si le Seigneur Jésus n'est pas présent physiquement au milieu de nous, il l'est par son Esprit. Parce qu'il a dit, lorsque deux ou trois personnes sont réunies en son nom, il est là. Donc, il est là par son Esprit. Et c'est par son Esprit que les quatre candidats sont arrivés à prendre la décision et à se faire baptiser. Nous allons lire Acte 2, Acte 2, 38 à 41. Acte 2, versets 38 à 41. Alors, je vais lire Acte 2, 38 à 41. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. » On continue jusqu'à 41. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et par plusieurs, c'est 41, voilà, 41, c'est bon. Dans ma version, il dit, « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, au verset 41, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Mais au verset 40, dans ma version, il est dit, « Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager, leur disait, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Et ce qui a été affiché, vous pouvez mettre le verset 40 encore, on va voir la nuance. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ici, il dit, « Séparez-vous de cette génération perverse. » Il y a un effort de séparation. Par ce passage, nous voyons l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui parle à un public qui était là. C'était le jour de la Pentecôte. Il y a un phénomène qui s'était produit. Le Saint-Esprit était descendu sur les 120 qui étaient réunis à la chambre haute. Pendant 10 jours, ils ont attendu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Et là, l'auteur symbolise l'action du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit par des images. Il y a eu un grand vent. Il y a eu des langues de feu qui se sont déposées sur chaque individu. Donc, ça parlait du Saint-Esprit. Et les 120 personnes se mirent à parler en langue. Et les gens qui étaient venus du monde entier pour la Pentecôte, chacun entendait parmi les 120 des gens qui priaient dans leur langue maternelle. Alors que ceux qui parlaient dans leur langue maternelle ne connaissaient pas, comprennent pas leur langue. Donc ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Si les Mossi étaient là-bas, ils allaient entendre les Juifs parler, louer Dieu en moré. Pourtant, le Juif ne connaît même pas le Burkina. À plus forte raison, parler le moré. Mais c'est comme ça que les gens étaient étonnés. Et ils voulaient comprendre. Mais il y a d'autres qui se sont moqués en disant, oh, ils sont ivres. Alors Pierre se lève pour leur dire, non, 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 ce n'est pas l'heure de l'ivresse. Il était 9h du matin. Personne ne boit pour devenir ivre à 9h du matin. Ce phénomène que vous voyez, c'est l'accomplissement de ce qui avait été promis dans le livre de Joël. Dieu avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit est arrivé. Et dans son discours, il parle du Seigneur Jésus qui a été crucifié. C'était le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu pour le salut du peuple juif. Mais les Juifs l'ont rejeté. Ils se sont entendus pour le livrer aux païens pour être crucifié. Donc, dans son discours, il a parlé du salut. Le salut qui est passé sous le nez du peuple juif. Et c'était l'occasion de faire l'évangélisation. L'apôtre Pierre a parlé. Et les gens étaient touchés. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Pierre donne l'identité et la singularité du chrétien. L'identité et la singularité du chrétien en donnant un schéma au verset 38. Au verset 38, il est dit « Changez !» Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, avec ce schéma, nous voyons qu'il y a quatre points. Quatre points que l'apôtre Paul va ressortir. Parce que les Juifs qui ont entendu, tout le monde qui était présent, même les non-Juifs, tous ceux qui étaient présents à la Pentecôte et qui ont entendu le message, ils ont dit, mais que devons-nous faire alors pour être sauvés? C'est alors que l'apôtre Pierre leur donne cette réponse-là. Donc nous allons voir les quatre points avant de passer au baptême. J'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Voilà, soyez attentifs. Donc le premier point qui est ressorti, c'est la conversion. Deuxième point, c'est le baptême. Troisième point, c'est l'engagement personnel. Et le dernier point, c'est l'accueil du Saint-Esprit. Si vous voulez être sauvé, il faut suivre ce schéma. Le premier point, nous allons le développer, c'est la conversion. Au verset 37, nous voyons là ressortir la conversion. Et pour se convertir, il y a d'abord des préalables. Il y a les premiers pas à mettre en route pour se repentir. Avant, il faut vraiment se repentir. Pour se convertir, il faut d'abord la repentance. Au verset 37, il est dit, « Ceux qui entendirent Pierre furent profondément touchés. » Ils ont été touchés. Quelque chose a transpercé leur cœur. Quelque chose s'est passé dans leur cœur. Donc, c'est le premier pas de leur repentance. Ils ont ressenti un trouble interne. Ils ont ressenti de la douleur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils ont été pénétrés d'un douloureux regret en entendant simplement la parole de Pierre. Ils se sont sentis coupables au niveau moral et dans leur conscience, leur crime. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont tué le juste. Ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, ça fait qu'ils ont ressenti la douleur, le péché qu'ils ont commis a provoqué en eux une douleur. Donc, il y a parfois des douleurs bienfaisantes. La douleur aide, nous aide à nous tourner la nuit, pendant la nuit, pour que nous ne restions pas sur le même côté jusqu'au matin. Sinon, on va connaître des escarres. Mais quand on commence à sentir la fatigue, automatiquement, on change de position. Donc, c'est des douleurs bénéfiques. Ici aussi, il s'agira d'une douleur bénéfique. Ils ont ressenti ce douloureux regret. Ils se sentirent coupables au niveau moral et dans leur conscience de leur crime. En ayant été solidaires avec le Sanhédrin pour condamner le Sauveur. Peut-être que plusieurs d'entre eux, parmi le public, avaient dit « Crucifie-le !» Quand Pilate demandait s'il fallait le relâcher ou relâcher Barabbas, ils ont dit « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Donc, ces mêmes personnes ont entendu le discours de Pierre. Donc, ils étaient mal. Ils étaient très, très, très mal. Alors, ils comprirent en même temps que la mort de Jésus-Christ avait été voulue de Dieu. Dans le discours, Pierre l'a ressorti. Il fallait que la chose arrive pour le salut du monde entier. Donc, ils ont entendu, non seulement ils étaient coupables, mais ils ont vu que le salut était seulement en Jésus-Christ. Il n'y a point de salut ailleurs que par la mort de Jésus-Christ. Donc, en même temps, ils ont la solution, ils ont entendu le problème et la solution en même temps. Ils reconnurent premièrement leur péché de n'avoir pas cru en Jésus-Christ, leur Sauveur. À partir de ce discours, ils ont vu que le salut est passé sous leur nez. Ils ont refusé d'écouter le Seigneur Jésus. Et deuxièmement, ils ont vu en face, surgir en leur face leur inimitié contre Jésus-Christ. Ceci en réponse au discours de Pierre. Non seulement ils ont laissé passer le salut, mais ils se sont vus ennemis de Jésus-Christ. Alors, ce qui explique alors leur douleur. Ils ont traité leur Sauveur en ennemi. Ils ont rejeté le salut. Alors, ça a créé en eux la douleur, le regret. Ça fait partie de la repentance. Pour que quelqu'un se repente, il faut d'abord qu'il ressente cette douleur-là. Alléluia. Au verset 38, au verset 36, au verset 36, on va descendre au verset 36, nous allons voir que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Non, c'est ce qui fait que, bon, leurs yeux s'ouvrirent. Le deuxième pas dans la repentance. Donc, le premier pas, c'était de la douleur. Donc, le deuxième pas dans la repentance, c'est qu'ils engagèrent leur volonté. Puisqu'ils ont entendu, ils ont souffert de la douleur en eux, ils ont vu leur culpabilité, ils ont vu leur inimitié. Ils se sont engagés à faire la volonté de Dieu. Ils ont engagé leur volonté. Il faut que la volonté soit engagée. On ne peut pas croire à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut pas parler de foi de seconde main ici, c'est la volonté personnelle. Et je pense que chacun de vous qui êtes devant, qui allez passer par les eaux du baptême, c'est quelque chose de personnel. La volonté, c'est personnel. Personne ne vous a contraint. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Vous êtes passé par ce schéma que nous allons décrire. Alors, ils ont demandé au verset 37, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ils sont devant la réalité, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils ont posé la question. Est-ce que chaque... qu'est-ce que nous devons faire, nous qui avons entendu? Et c'est le même schéma que chacun de nous a suivi. Nous avons été pécheurs et nous sommes entrés dans la vie du ciel. C'est parce que chacun de nous, nous sommes entrés dans la vie du ciel. En poussant ce cri, comme un bébé, un nouveau-né qui sort des entrailles de sa mère, tout ce que l'on souhaite, c'est que l'enfant crie. Quand l'enfant ne crie pas, c'est un problème. Alors, ce même cri, c'est ce que nous avons tous poussé. Que devons-nous faire? Que dois-je faire? En tout cas, moi je l'ai fait et je crois que chacun de vous, vous l'avez fait, vous qui croyez au Seigneur. Quand vous avez entendu la bonne nouvelle, vous avez demandé, que dois-je faire? C'est comme ça que nous sommes entrés dans la vie de Dieu, dans la vie du ciel, en poussant ce cri. C'est la même chose que quand Paul et Silas ont été arrêtés à Philippe et que le gardien, le geôlier, a voulu donner sa vie au Seigneur, il a posé la même question. Il a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc ça, c'est la question que chacun de nous se pose. Voilà la réponse de Pierre. La réponse de Pierre, elle est claire, précise, profonde et renferme en quatre mots tout ce qui constitue le salut. Ce salut qui est à la fois l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Le premier point, c'est la repentance. Nous avons déjà parlé des points qui nous amènent à la repentance, la douleur et tout ça. Donc, le sentiment douloureux du péché et le désir d'un complet renouvellement moral. Alors, Matthieu 3, verset 2, nous dit que la repentance, c'est le principe de changement, de la transformation morale de l'homme intérieur. Notre homme intérieur a besoin d'être changé. Et c'est la repentance qui nous amène à ce changement. Et la repentance, elle précède la conversion. La conversion, c'est le retour à Dieu. Quand tu te convertis, c'est comme si tu prends la route. Tu vas tout droit et tu te rends compte que non, je dois faire demi-tour. Donc tu fais carrément demi-tour et tu vas au sens opposé. C'est ça la conversion. On change carrément de trajectoire et on marche vers Dieu. On revient à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Quand le pécheur qui entend la parole de Dieu se répand, éprouve donc la souffrance morale qui le détache du péché, la puissance du Saint-Esprit crée en lui la nouvelle vie et accomplit la transformation morale. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre consécration. Une fois que nous avons éprouvé cette douleur et nous nous sommes tournés vers Dieu, puisque nous avons demandé que devons-nous faire, on nous dit ce qu'il y a à faire, on se tourne vers Dieu, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Le Saint-Esprit se met en mouvement et crée en nous la vie nouvelle. C'est ce qui va nous transformer, transformer notre être. Le dimanche passé, on a dit que le Saint-Esprit ne transforme pas les vies, mais transforme les personnes. Et la transformation de la personne se verra dans la vie que la personne va mener. Il faut que le pécheur repentant ressente la douleur, l'humiliation, la haine du péché, pour que le Saint-Esprit de Dieu opère en lui une nouvelle vie. Alors le Saint-Esprit, il purifie comme le feu. Le feu dans le creuset, quand on veut purifier l'or, le feu descend jusqu'aux profondeurs de l'or. Toutes les profondeurs de l'or vont être visitées par le feu. Et il va ressortir de l'or purifié, de toutes les scories, de toutes les impuretés. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi dans notre vie. Le but, c'est notre transformation. Alors, on l'a vu à la chambre haute quand le Saint-Esprit est devenu l'image du feu. La langue de feu qui est déposée sur chacun d'eux, ça représente justement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait cette œuvre de transformation. Alors, le Saint-Esprit va rendre le pécheur repentant précieux comme l'or. Puisque le feu, il purifie les métaux les plus durs. Alors, le Saint-Esprit va purifier aussi l'homme, quelle que soit la dureté du cœur de l'homme, quelle que soit la connotation qu'on va lui donner. Quand cet homme a affaire au Saint-Esprit, la personne aussi va connaître le changement et devenir précieuse comme de l'or qui ressort du creuset avec toute la pureté qui le rend si précieux. Alléluia. Certes, vous serez baptisé tout de suite, mais il faut aussi être baptisé dans le Saint-Esprit qui est le garant de votre salut. Alléluia. On a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque l'on est conscient du péché et que l'on en ressent la douleur, on est préparé à recevoir le Sauveur et par lui, la grâce. La grâce, c'est le Saint-Esprit et son œuvre en nous. Alléluia. Et je prie que vous receviez cette grâce en passant par les eaux du baptême. Que la grâce du Saint-Esprit et de son œuvre soit votre partage pour opérer la transformation en vous. Alléluia. Quelqu'un peut être reconnu voleur. Voleur invétéré. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse changer le voleur invétéré, qui va voir les choses maintenant et qui va avoir le dégoût pour le vol. Il n'y a que le Saint-Esprit. Vous pouvez lui donner les conseils que vous voulez, le faire passer chez les psychologues, les psychiatres, tous les grands savants de ce monde. Ça ne va pas changer le voleur, là. Le voleur ou le menteur invétéré. Mais quand cette personne rencontre le Saint-Esprit, sa vie change du tout au tout. Alors, on parle en ce moment de conversion. La conversion. Alors, quand le Saint-Esprit fait son œuvre, commence en ce moment le vrai règne intérieur et spirituel de Jésus par son esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de vous. Il veut régner dans votre cœur. Et le règne se fait à l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène toutes ces choses. Donc, commence le vrai règne intérieur et spirituel de Jésus par son esprit, qui introduit cette personne repentante dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi. C'est lui qui règne. Il règne sur l'univers tout entier. Alléluia. Et il veut que vous entriez dans son règne. Et c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez rentrer dans son règne. Une fois que cette œuvre est faite en vous, vous pouvez être considéré comme citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait aussi. Et son royaume, il est invisible. Et on y entre par une transformation morale. Et il faut naître d'eau et d'esprit pour être dans ce royaume-là. Dans son royaume, la foi n'est pas fondée sur les miracles. Elle est morale. La foi fondée sur les miracles, une fois qu'on n'a plus les miracles, on abandonne Dieu. Le miracle lui-même peut nous amener loin de Dieu. On voit des gens qui ont été bénis, des personnes qui ont été l'objet de prières de leur pasteur, qui a jeûné, qui est resté dans la présence de Dieu pendant des jours, parfois pendant des semaines. Et quand la situation est réglée, on ne voit plus la personne à l'église. La personne tourne le dos à Dieu et commence même à critiquer le pasteur, à lui jeter des pierres, à critiquer l'église. Donc, les miracles là, si votre foi est basée sur les miracles, il faut changer. Changer. Le miracle, la foi doit être morale. Il faut naître d'eau et d'esprit pour être dans ce royaume. Dans ce royaume, oui, j'ai déjà dit ça, la foi n'est pas fondée sur les miracles, elle est morale. C'est une foi qui transforme les personnes. Donc, il faut naître de Dieu, naître d'esprit. C'est ce que le Seigneur appelle chacun. Et je crois que nous tous, nous sommes déjà passés par là. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, si vous n'avez pas fait encore la rencontre avec Jésus, si le Saint-Esprit n'a pas encore opéré ce miracle en vous, ce n'est pas tard. Alléluia, c'est le moment de faire le pas. Parce que vous avez besoin d'être né de nouveau, naître de Dieu, naître du Saint-Esprit. Ça se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Une naissance symbolique se fait par l'eau. Tantôt, quand on va vous plonger dans l'eau, l'eau représente la naissance. C'est symbolique. Et la naissance réelle, c'est par l'esprit. Donc, la naissance, vous allez être enfant de Dieu par l'esprit. L'eau, c'est quelque chose de symbolique. Le baptême est symbolique. Mais le vrai baptême, c'est celui du Saint-Esprit. Et je prie qu'après votre baptême, vous cherchiez vraiment le Saint-Esprit de tout votre cœur, comme les 120 personnes l'ont cherché. Et tout au long de l'histoire chrétienne, à chaque fois que des personnes se sont mises à chercher le Saint-Esprit de tout leur cœur, même si ça doit prendre une année, ils vont persévérer jusqu'à ce que la Pentecôte se manifeste dans leur vie. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Parce que la Pentecôte ne consiste pas seulement à parler en langue, à faire du bruit comme nous avons entendu. Ça se voit dans la vie. Quand vous expérimentez la Pentecôte, vous avez soif de lire la parole de Dieu. Vous ne la lisez pas comme un roman. Vous ne la lisez pas pour vaille que vaille. Vous lisez en recherchant quelque chose qui va vous aider à avoir la vie transformée. Ça, c'est vous méditez la parole de Dieu dans le but de vous transformer. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit va avoir la soif de prier. Pas une minute de prière, comme on prie pour manger, Seigneur bénis ce repas, amen. Non, ça c'est pour les enfants de l'école de dimanche. Ah oui, nous nous exerçons par les veillées de prière, par les prières de 20 heures là. À la prière de 20 heures, on prie jusqu'à 21 heures. Ce sont des exercices pour nous pousser à prier individuellement. Alléluia. Le pasteur Ginette nous a dit, vous les parents, surtout les mamans, vous dormez jusqu'au matin. Et puis après, vous voulez que vos enfants soient comme vous le souhaitez. Ah non, il ne faut pas dormir d'un trait comme ça. Elle a dit, il faut vous lever, prier pour vos enfants. Priez pour votre famille, priez pour votre mari, priez pour l'église. Soyez des machines de prière. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit aura ce désir brûlant de prier. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit aura ce désir brûlant d'annoncer la parole de Dieu. Quand vous recevez une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous faites? On la partage. Et puis on la partage pas tranquillement comme ça. On est joyeux. On manifeste sa joie. Regardez quand on marque le but là. Regardez même dans le stade. Même les présidents qui sont là. Qui doivent avoir un comportement respectable. Vous allez les voir, ils vont sauter. Ouais, faire comme des enfants. Ah oui, parce qu'il y a la bonne nouvelle. Ils ont leur pays à marquer, surtout si c'est la finale et puis c'est le dernier but qui qualifie le pays. Oh là 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 là. C'est la joie partout. Ça se voit. Ça se voit. Il en est de même pour vous. Alléluia. Recherchez le Saint-Esprit pour annoncer cette bonne nouvelle du salut. Alléluia. Quand on rencontre l'homme de Galilée, dont Pierre a parlé, on ne peut pas rester la même personne. On ne peut pas rester tranquille. On paye le prix. Il y en a qui payent le prix. Nous, nous avons laissé le Burkina Faso. Papa, maman, frères, sœurs, nos maisons, nos biens. Et on est venu ici trimer. Parfois même pour avoir à manger, c'était difficile. Demandez à Abigail. À chaque fois qu'ils allaient à l'école, c'était les tartines au maquereau, les boîtes de sardines de Aldi. Là. C'est papa qui faisait les tartines. De l'huile, la mayonnaise, du cube magie, poum, 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 on met sur les tartines. Chaque jour que Dieu crée, c'était ça. Et quand ils reviennent de l'école, c'était quoi encore? Les pâtes, plus ces sardines-là, les oignons, de la tomate, et puis on émiette les maquereaux, on met dedans. On cuit soit le riz, soit les pâtes, et puis c'est ça qu'ils mangent. Pendant longtemps, on a payé le prix. On a payé le prix. Hey, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ah, quand on voit Maman Déborah, elle s'habille mal. Quand on voit les enfants, elle s'habille mal. C'est un prix. Parce que j'ai compris. J'ai compris. Demandez qui était Déborah quand elle était jeune fille. Quand elle s'était mariée. Demandez son histoire. Vous allez voir, elle s'habillait bien. Comme sa maman. Voyez les photos de maman. Parce que mon papa, il était couturier. Ma maman, elle était... comme ça. Donc, il y a un prix. Bon, elle ne sait pas s'habiller. D'accord. Ses enfants ne savent pas s'habiller. D'accord. C'est un choix. Pour que vous soyez ce que vous êtes là, on a payé ce prix. Alléluia. Parce qu'on a rencontré l'homme de Galilée. Et le Saint-Esprit est en nous. On paye tout le prix. On paye tout le prix. Regardez notre histoire à Arlon. On vivait à combien? Dans une seule pièce. Alléluia. Le premier lit, c'est maman Andrea qui a acheté pour nous. Et on allait le mettre où même? On a attendu jusqu'à ce qu'on déménage à Berchem pour utiliser ce lit-là. Est-ce que vous êtes prêts à payer ce prix pour le Seigneur? Pour que l'on voit une église qui est resplendissante, pour que l'on puisse parler un jour que le bishop Adama est passé quelque part. Il a fait une œuvre. Quand on parle de lui, c'est sa femme, ses enfants derrière lui, parce que nous avons payé tous le même prix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais grâce à ces jeunes. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Je voulais donner les explications sur le baptême et tout ça. Mais on va passer maintenant. Au baptême lui-même, on peut commencer à mettre l'eau chaude. En attendant qu'ils arrivent, nous allons voir quelques significations du baptême. Le baptême, pour le chrétien converti, il se baptise pour signifier qu'il meurt au vieil homme, qu'il est délivré de la loi, de toute servitude, c'est-à-dire péché, le diable, etc., de soi-même. On a besoin d'être délivré de soi-même. Alléluia. D'être libéré, d'avoir une vie, vivre une vie nouvelle. L'ancienne vie doit être derrière nous. Un chrétien, par le baptême, il dit qu'il se donne à Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour lui. Il se donne parce qu'il l'a rencontré. Il reconnaît sa voix, veut lui être familier. Il s'engage à être fidèle à Jésus, à ne pas le renier même devant une épreuve qui le conduira à la mort. Il s'engage à le suivre dans le bon et les mauvais jours. Et à des renoncements. Il renonce à la vie du passé. Il renonce à certaines relations, à certaines pratiques, les pratiques ancestrales. On doit renoncer à tout ça. Quand on devient chrétien, on tourne dos à tout ça. Alléluia. Allez au deuil et puis on va te demander de raser la tête parce qu'on a besoin des cheveux pour faire tout ça là. Avec le Seigneur, on ne fait plus ces pratiques-là. Parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. On n'a plus besoin de tout ça. C'est vraiment faire machine arrière. Alléluia. Les pratiques occultes, on n'en a plus besoin. Et toute pratique qui le conduira à vivre dans le péché. Hein? La paresse, la négligence, etc. Donc, le chrétien s'engage à être fidèle à son Église, à la défendre, à participer à la vie communautaire et à son fonctionnement. Donc, quand vous vous baptisez, vous signez votre appartenance à votre Église. Donc, vous devez la défendre. Défendre votre Église, participer à la vie de l'Église, être un membre actif. Alléluia. Et restez fidèle. Fidèle. Là où vous êtes baptisé, vous restez dans cette église parce que vous appartenez à cette église. Alléluia. Fini le papillonnage. Il faut rester, même qu'il fasse chaud ou froid. Restez. C'est votre maison. On ne fuit pas sa maison. Pas de fugue. Alléluia, on revient et puis on s'arrange par la discussion, par la communication et tout ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand vous quittez votre assemblée, vous marquez votre infidélité. Et Dieu n'est pas pour les infidèles. Il récompense ceux qui sont fidèles. Alléluia. À moins que vous veniez voir votre pasteur, vous dites, voilà... je vais aller, par exemple, à Bruxelles. Je ne pourrai plus être là. Il faut me signer un papier.